L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Merci d'être avec nous comme chaque samedi. L'atelier numérique sur BFM Business, 16h, 18h, votre rendez-vous dédié aux nouvelles techno du week-end. Et merci d'être là. Tout à l'heure, nous allons retrouver notre World Tour. Nous irons au Chili pour découvrir un écosystème propice à l'entrepreneuriat féminin. Notre French Tech Tour, la rédaction de Zeronet.com et puis le crash test d'Antoine pour terminer. Mais d'ici là, notre passion se lance à nater avec Lila Megraoua et notre invité. On va parler des objets connectés physiques qui vont disparaître.
Mais oui, les disparitions vivent plus ou moins. Non, c'est plus les objets connectés physiques sont morts.
Oui.
Vivent les objets connectés invisibles.
Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe, Lila? Vous avez tout va bien.
Si vous vous souvenez, c'était plus ou moins une thèse qui était défendue par Raphaël Adjian,
notre maître à tous.
Exactement. Raphaël Adjian, qu'on avait reçu il y a quelques mois.
Le papa du Nabastag.
Tout à fait.
Entre autres.
Et là, nous avons le plaisir d'avoir en studio Rand Indy, qu'on avait déjà reçu pour le portrait d'innovateur. Alors quelques mots pour vous présenter. Assez rapidement, vous
bonjour,
avez un passe-court.
Bonjour. Et je m'attends au pire sur la présentation, ok?
Non, ça va bien se passer, vous inquiétez pas.
Très rapidement, vous avez un parcours assez fascinant. En 99, vous avez créé un réseau social destiné à l'époque à la jeunesse qui s'appelait non pas Facebook, mais Planète Ultra. Vous avez continué votre bout de chemin avant de vous essayer au Quantified Self sur vous-même. Vous êtes un peu une, on pourrait dire, Madame Irma, Monsieur Irma ou Monsieur Soleil du numérique. Vous fondez en 2013 la start-up Snips.
C'est un compliment, hein, ça,
ouais,
parce
qu'on
pourrait se dire
ouais.
C'est pas un compliment.
L'innovateur. Vous fondez en 2013 la start-up Snips, d'abord en la positionnant sur de la modélisation prédictive. Vous avez été élu par le MIT innovateur, jeune innovateur de l'année l'année dernière. Vous venez de lever en juin dernier plus de 5 millions d'euros auprès à la fois d'investisseurs internationaux et non moins que Xavier Niel.
C'est pas trop lourd, 5 millions, ça va?
Voilà.
On a un peu de mal à les dépenser.
Et voilà, c'est ça.
Jusqu'ici, ça vous va.
On va vous les enlever. Si vous voulez qu'on vous aide à les dépenser, il n'y a pas de souci. Avec Lila, on peut trouver deux, trois trucs.
Gardez-les.
Et donc, il y a un an, vous faites le choix de pivoter vers l'intelligence artificielle, à savoir l'intelligence contextuelle. Un peu comme Raphaël Adjian, vous défendez cette idée que l'objet connecté tel qu'on le connaît va mourir, que demain, on va être face à des objets connectés invisibles. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu?
C'est-à-dire.
Okay. Alors déjà, pour rapidement expliquer, donc on n'a pas vraiment pivoté. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, quand on a créé la boîte, on était un genre de laboratoire d'innovation autour de la donnée.
Ouais.
Donc notre objectif, c'était d'analyser toute la donnée, ce qui se passe dans le monde réel, et à partir de ça, d'essayer de prédire et d'anticiper tout un tas de comportements, les accidents de la route, les crimes, et ainsi de suite. Quand on a commencé à se projeter 10 ans dans le futur, justement avec ces 100 milliards d'objets connectés qu'on nous a promis, finalement, ce qu'on a réalisé, c'est que ça, c'était pas super. Parce que ces objets, ils sont tellement intrusifs déjà aujourd'hui, quand on en a à peine 2-3 chacun, qu'à l'échelle, en fait, de 100 milliards, ça sera juste une catastrophe. On va passer notre temps, finalement, à devoir apprendre comment ils marchent et appuyer sur des boutons. Enfin, imaginez, vous arrivez chez vous et chacune de vos ampoules qui est connectée vous demande si vous voulez l'allumer ou pas. Bref.
Ah oui.
Donc, finalement, ça, c'est quoi? C'est un problème d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que si ces objets-là avaient une intelligence artificielle embarquée dans chacun d'entre eux, finalement, ils seraient capables peut-être de comprendre ce qu'on veut, d'anticiper nos intentions, et donc, pourquoi pas, d'automatiser les interactions. Et
ça, vous pouvez nous donner un exemple, Rand, pour qu'on comprenne bien. On prend par exemple l'exemple des ampoules.
L'exemple des ampoules, d'ailleurs, ça existe depuis longtemps. Donc, l'exemple des ampoules, je rentre chez moi, j'ai pas besoin de dire à mes ampoules de s'allumer, en fait. Elles pourraient détecter que je suis arrivé chez moi, que normalement, quand j'arrive chez moi, j'aime allumer la lumière, ce qui est pas dingue. Et automatiquement s'allumer dans les pièces sauf s'il fait jour, exactement. Donc prendre en compte aussi la lumière extérieure. Ça, ce sont des choses qui existent déjà en fait aujourd'hui, mais qu'on n'a pas véritablement mis en pratique dans tous les objets. C'est un domaine d'intelligence artificielle particulier qui s'appelle l'intelligence contextuelle, le context awareness. Et ce que ça implique à terme, finalement, c'est que vu que ces objets seront hyper intelligents et non intrusifs, on n'aura plus besoin de s'en soucier, on n'aura plus besoin d'y prêter attention. Et donc, de facto, ils disparaîtront de notre conscience.
Et donc on les utilisera avec d'autant plus de plaisir et de manière encore plus intense, c'est ça.
Mais c'est ça le concept, c'est qu'on les utilisera, on ne les utilisera plus. En fait, ils seront ambiants.
C'est que la table sera. Ce ne seront plus des gadgets comme aujourd'hui, la plupart des objets connectés sont.
Exactement. Exactement.
Mais d'accord.
Et finalement, ça, on l'a déjà eu avec l'électricité il y a 200 ans. Quand on a inventé l'électricité il y a 200 ans, c'était quelque chose de très intrusif. Ça coûtait cher, c'était dangereux. Enfin, on voit les Nikola Tesla dans son labo avec les foudres. Notre appartement pouvait prendre feu. Et au fur et à mesure que la technologie a mûri, elle est devenue pas chère, accessible. On l'a mis partout. Et aujourd'hui, personne est en train de se dire, il y a l'électricité partout. Waouh, c'est incroyable. Et c'est exactement pareil qui va se passer avec les objets connectés grâce à l'intelligence artificielle.
Mais ça, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout objet sera connecté. Est-ce qu'il ne faut pas quelque part un seul et unique objet qui va agréger tout? Comment ça va se passer? Ça va être mon smartphone. À partir de mon smartphone, à partir de l'analyse de mes habitudes, mes comportements, on va être capable d'anticiper mes besoins. Est-ce que quelque part, ce qui ne restera pas, ce sera toujours la validation humaine?
Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on a besoin encore de valider parce qu'on n'a pas accès à suffisamment de données pour être capable de représenter le contexte de quelqu'un de manière suffisamment précise. Mais c'est qu'une question finalement d'accès à cette data-là. Et l'accès à la donnée est en train d'augmenter au fur et à mesure. J'espère que plus tard, ce ne sera pas centralisé justement, mais qu'au contraire, ça sera décentralisé. Et même voire plus que personne ne possédera d'objets connectés. C'est-à-dire que ces objets connectés seront ambiants, ils seront mutualisés. Si là, par exemple, j'ai une table en face de moi, j'ai besoin de me connecter à Internet. Si la table est connectée, j'utilise la table qui est devant moi. J'ai pas besoin d'emmener mon ordinateur avec moi. Ça n'a strictement aucun sens. À partir du moment où je peux prendre n'importe quel objet et en faire ce que je veux au moment où j'en ai besoin, la question d'appartenance de l'objet physique n'a plus aucun sens. C'est la question, en fait, de données qu'elle contient et de l'utilité de cet objet qui devient intéressant. Donc, au contraire, je pense que ça sera complètement décentralisé et ça sera bien mieux comme ça pour des points de vue de sécurité aussi.
Ah, vous pensez que pour la sécurité, est-ce que c'est pas dantesque quelque part comme chantier? Comment on peut espérer que tout ce réseau, tous ces objets soient vraiment sécurisés?
Alors, en fait, en sécurité, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que n'importe quel système, un jour ou un autre, aura une faille et que quelqu'un arrivera à rentrer dedans. Donc, centraliser toute la donnée de quelqu'un dans un seul système, finalement, ça crée un point d'entrée vers l'intégralité de tout. Alors que si jamais on distribue ça sur tout un tas de systèmes très différents, il faudrait que quelqu'un puisse pénétrer dans chacun de ces systèmes-là, ce qui est exponentiellement plus difficile. Donc en fait, oui, ça sera plus facile d'accéder à un seul de ces objets, mais ça sera beaucoup plus difficile d'accéder à l'intégralité de la vie de quelqu'un versus ce que c'est aujourd'hui.
Mais le problème, c'est que ces objets vont discuter entre eux. Est-ce que, justement, le hacker peut pas passer par les passerelles de chaque objet pour justement récolter toutes ces données?
Il pourrait, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dissocier les questions d'objets connectés des questions aussi d'encryption. Je pense qu'en chiffrement, encryption, je ne suis pas sûr comment on dit en français. Il y a aujourd'hui pas mal de technologies qui permettent justement de faire des calculs entre les objets sans jamais transférer la donnée en elle-même. Donc, quelqu'un qui écouterait, en fait, finalement, n'aurait jamais accès à la donnée originale. En anglais, c'est ce qui s'appelle le Secure Multi-Party Computation. C'est un peu compliqué, mais en pratique, ce que ça veut dire, c'est que tous les deux, nos téléphones pourraient, un exemple, comparer nos contacts, savoir qui on a en commun, sans jamais s'envoyer nos listes de contacts respectives. Donc toute l'information que nous on a...
Scruter l'information sans la communiquer.
Exactement. Et ça, c'est très important, en fait, dans ce futur ultra connecté, parce que c'est ce qui permet justement de ne pas avoir ce problème d'homme au milieu qui écouterait tout le trafic.
D'accord.
Ce futur, il est. Vous l'imaginez à quelle échéance?
Oula, faut faire
dans
attention
10 ans,
parce que
10 ans,
c'est enregistré,
ans,
donc dans 10 ans on va peut-être. Non, je pense que ce qui va se passer, c'est, à mon avis, d'ici 10-15 ans, on aura atteint un point d'inflexion en intelligence artificielle et en termes d'utilisation des objets connectés, qui fera qu'on aura cette sensation finalement de non-intrusivité. Mais c'est au moins 10-15 ans dans le futur, si ce n'est pas 20. Mais bon, ça reste dans notre génération, en tout cas.
Oui, on va le vivre.
Ah oui, complètement. Ah oui, oui, ça c'est clair.
Alors, ce passage à l'invisible, j'imagine que Snips souhaite s'y embarquer. L'ambition, c'est d'être le leader sur le sujet.
Bien sûr, nous, clairement, on veut mettre une intelligence artificielle dans tous les objets du monde.
Mais en vous alignant, oui,
en toute simplicité.
Non, mais bon,
bien sûr.
On va le dire.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est bien. De la chaussette à la friteuse.
Voilà, exactement.
D'accord.
Exactement.
Non, sérieusement, on plaisante là, mais c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Tout objet de notre quotidien peut avoir un sens à être connecté.
Alors ça, je sais pas. C'est une autre question. Je ne sais pas. J'y ai pas réfléchi. Peut-être pas, en fait. Je sais pas, par exemple, si j'ai forcément envie que mon jean soit connecté. Enfin, quoi que aussi, parce que du coup, ça pourrait mesurer. Moi, s'il y a des trucs, pas quand même. Je pense. Je pense pas qu'il y aura une utilité à tout connecter, mais en tout cas, il n'y aura jamais de côté négatif à connecter quelque chose. Je pense pas.
Est-ce que on est prêt à vivre tout ça, nous? Est-ce que on est prêt à vivre tous ces changements au quotidien, ces analyses en temps réel de tout ce qu'on fait, etc. Mais intellectuellement, on est prêt?
Alors ça aussi, c'est difficile. Je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit le changement en lui-même qui soit vertigineux. Je pense que c'est plutôt la rapidité avec laquelle il arrive maintenant. Finalement, quand on regarde Internet, les changements que ça a entraîné, ou même Facebook, tous ces trucs-là. C'est aussi incroyable.
Oui,
on n'a pas cette impression-là parce que ça s'est passé sur des dizaines, vingtaines d'années. Internet, ça a quand même 30 ans maintenant. Et les objets connectés, le problème, c'est que ça va se passer en 10 ans. Et donc finalement, notre perception du changement va vraiment être beaucoup plus radicale. Et je pense que c'est ça qui fait peur.
Très bien.
Quels secteurs vont d'abord être impactés? C'est la ville intelligente dans laquelle Snips s'était largement investi.
Alors, c'est ce que je pensais effectivement au début. Et ce qu'on a réalisé, c'est que finalement, les villes intelligentes, ce sont des conséquences d'avoir des intelligences dans tous les objets connectés. Parce que de facto, quand le train a une intelligence artificielle, quand la lampe a une intelligence artificielle, tout commence à marcher mieux en termes de population. Clairement, la première chose qui va profiter de ça, c'est les smartphones. C'est évident. Mais je pense que les voitures connectées, ce qu'on ne réalise pas, c'est que finalement, une voiture qui se conduit seule, comme celle qu'on voit aujourd'hui, c'est une intelligence artificielle, c'est une intelligence contextuelle, parce que la voiture est capable, du coup, de s'orienter dans le monde réel et de prendre des décisions de manière autonome. Et ça, ça existe déjà, donc c'est très court terme. Donc, à mon avis, le smartphone et les voitures, c'est deux candidats parfaits pour une disruption immédiate grâce à ça.
Le prochain chantier de l'intelligence contextuelle.
Mais tout ça, en fait, c'est lié. Intelligence artificielle sans contexte, ça ne marche pas vraiment, finalement.
Eh bien, merci. Passionnant, tout ça. Hein. On est au début d'une nouvelle ère. Et on va la vivre. Voilà.
Ren Dindi, merci. Je rappelle, vous êtes fondateur de Snips.
Voilà. Bah, merci à vous.
Merci beaucoup.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business, la rédaction de Zeronet.com dans quelques minutes. Notre French Tech Tour avec un bilan des 1 an du Pass French Tech, ce sera dans un instant avec Aurore Giraud, mais Aurore qui est déjà avec nous pour notre World Tour. Et on va évoquer le Chili maintenant, un écosystème propice à l'entrepreneuriat féminin.
Tout à fait.
Aurore,
et
c'est
avec
une
nous,
bonne nouvelle.
Avec Anne-Sophie Dutat, qui est donc entrepreneuse et correspondante Amérique latine pour l'atelier, on va dire.
Amérique latine, oui, exactement.
Alors,
bonsoir.
On parle Chili entrepreneuriat féminin. Selon un rapport de 2013 de l'Economist Intelligence Unit, le Chili serait l'écosystème le plus favorable à l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Alors, le premier, effectivement, premier plus favorable dans Amérique latine. Mais à l'échelle mondiale, c'est le sixième. D'accord. Sixième uniquement, mais ce qui reste effectivement un excellent chiffre quand on parle donc justement de la place des femmes dans l'entrepreneuriat en technologie.
Le gouvernement fait beaucoup envers les femmes. Est-ce que vous pouvez nous parler notamment du S-Factory, s'il vous plaît?
Alors, le S-Factory, oui, c'est ce nouvel incubateur qui vient donc de lancer sa première génération.
Ils l'ont lancé là ou
La semaine dernière, il y a 15 jours maintenant, c'est donc est arrivée cette première génération. Donc, S-Factory, c'est un produit dérivé, je dirais, de Startup Chile, donc on a déjà parlé plusieurs fois ici. Startup Chile, donc un incubateur du gouvernement chilien qui existe maintenant depuis 2011. Donc S-Factory, c'est sa version spéciale femme. Effectivement, le Chili qui donc a souffre un petit peu d'avoir une population active féminine très très faible, et surtout en termes d'entrepreneuriat, puisque seulement 3 ou 5% des femmes en fait actives sont aussi donc entrepreneuses au Chili. On a décidé en fait de mettre beaucoup plus d'efforts en fait sur cette génération de femmes, et donc de créer cet incubateur. Alors il est un petit peu différent du produit Startup Chili, c'est un programme de 12 semaines. L'apport financier est un petit peu moindre, puisque là on parle de 15 000 $, et qui en revanche a le mérite d'être sans equity. Et puis pendant 3 mois, donc ces jeunes femmes ou femmes sont accompagnées en fait donc dans leur démarche entrepreneuriale avec des sessions, des cours, du coaching, du mentoring et ainsi de suite, donc durant les 12 semaines, donc jusqu'à la fin de l'année, et avec une nouvelle génération, des prochaines candidatures possibles donc en début d'année 2016.
Donc uniquement féminin.
Uniquement féminin.
Je crois, j'avais trouvé que seuls 15% des candidats de Startup Chili étaient des femmes. Donc c'est pour ça qu'ils s'étaient lancés en fait dans ce produit-là.
Exactement. Donc, alors 15%, c'est sur les dernières générations.
Sur les dernières générations.
Sachant que dans les premières générations dont j'ai fait partie, on n'était que 2 ou 3 femmes, donc sur des générations de 100-120 personnes. D'accord. Donc effectivement, c'est un chiffre qui va de manière, enfin qui est en croissance, mais j'irai un peu partout dans le monde aussi, mais effectivement ça reste assez bas. Donc là, ce programme de S Factory est dédié à toute femme entrepreneuse, pas forcément des femmes de nationalité chilienne. Toute femme de n'importe quelle partie du monde peut postuler et venir, mais globalement ils ont aujourd'hui 45% des femmes qui sont des Chiliennes, qui viennent du Chili et qui donc décident de se lancer dans cette grande aventure qu'est l'entrepreneuriat et principalement la technologie.
Et d'autres initiatives publiques.
Alors des initiatives, justement il y en a effectivement énormément, notamment il y a l'association Girls in Tech Chile, qui représente aussi une de ces associations très actives au Chili. On la connaît parce que c'est une association mondiale qui a aujourd'hui qui existe je pense depuis 2007, enfin qui avait commencé à San Francisco, mais qui a aujourd'hui des dizaines de milliers de membres. Et puis il y a des associations Mujeres Empresarias par exemple, qui est plus destinée à des femmes d'affaires, des femmes qui ont déjà un peu influence, et tout ça accompagné en général effectivement d'un apport financier ou un encadrement et surtout un accompagnement pour les jeunes entrepreneuses, enfin jeunes quel que soit l'âge, mais celles qui s'initient je dirais à la démarche entrepreneuriale.
Et au sujet de Women We Code, c'est ou Code, pardon.
Voilà. Alors ça, effectivement,
c'est de l'éducation. C'est
donc
ça.
Là, on est vraiment donc dans la démarche d'aller chercher des jeunes femmes qui sont issues de milieux plus défavorisés, puisque le Chili a encore, je dirais, cette structure un peu assez propre à l'Amérique latine, mais vraiment très marquée au Chili, qui est une classe, je dirais. Haute, avec qui a reçu très bonne éducation et qui est assez, je dirais, aisée.
J'allais dire, quel est le profil
et ensuite le reste de la population qui est là, effectivement, pas un accès facile, je dirais, à l'éducation, qui a pas forcément beaucoup de moyens. Donc, Women We Code, c'est vraiment une fondation qui va justement aller chercher ces jeunes femmes dans les banlieues, dans les villes ou quartiers plus défavorisés, et va donc les encadrer pour leur donner justement à leur apprendre à coder, à devenir donc des développeurs, des futurs développeurs. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est une profession qui est particulièrement recherchée et prisée, et donc pour leur assurer, je dirais, un avenir plus facile, en fait. Voilà.
Parfait, très bien. Le Chili, donc, vu par le prisme de notre invitée Anne-Sophie Dutta. Merci beaucoup.
Merci.
Et avec Aurore, et après notre World Tour, place maintenant à notre French Tech Cours, et on va faire avec vous, Aurore, et avec votre invité, le bilan des 1 an du Pass French Tech.
Avec Paul-François Fournier.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Alors, pour ce French Tech Tour de cette semaine, je suis avec Paul-François Fournier, directeur exécutif en charge de l'innovation à BPI France. Paul-François, bonjour.
Bonjour.
La semaine dernière, donc le 15 septembre, il y avait un rendez-vous au ministère des Finances avec Axel Lemaire et une présentation des start-up ayant eu accès au French Tech Pass. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit rappel de ce qu'est le Pass ?
Alors le Pass French Tech, c'est un dispositif qu'on a lancé il y a maintenant un peu plus d'un an, 18 mois, et qui est en fait parti d'un constat d'un nombre d'acteurs de l'innovation qui étaient les pôles de compétitivité, la COFAS, Business France, qui était qu'il y avait des entreprises qui étaient en hypercroissance, qui se développaient extrêmement vite et qui avaient parfois du mal à avoir accès aux meilleurs dispositifs que nous, acteurs du soutien des entreprises innovantes, nous pouvions proposer. Et la proposition qu'on a bâtie, qui est ce Pass French Tech, ça a été de se dire, finalement, ces entreprises ont une chance exceptionnelle, c'est qu'elles ont une hypercroissance, leur chiffre d'affaires étant croissance extrêmement significative. On parle d'entreprises qui ont plus de 100% de croissance de leur chiffre d'affaires pour celles qui ont moins de 3 ans, ou plus de 50% pour celles qui ont plus entre 3 ans et 5 ans. Donc elles sont aujourd'hui focalisées sur leurs clients, sur leur marché. On va, pour ces entreprises, malheureusement pas le faire encore pour toutes, mais on va inverser la charge de la preuve, c'est-à-dire que nous, organismes de soutien à l'innovation, on va leur proposer un pass VIP, on va se coordonner, nous, pour leur offrir une feuille de route de ce qu'on peut faire de mieux pour elles. Donc concrètement, elles ont juste à vérifier qu'elles sont dans ces critères d'entreprise hypercroissance. Et puis une fois qu'elles ont passé ces critères, eh bien les organismes qui sont partenaires du PAS, c'est-à-dire, je les recite, BPI France, la COFAS, l'INPI, Business France, l'association des pôles de compétitivité, la FIC, on se réunit, on écoute le dirigeant de l'entreprise qui explique la stratégie de son entreprise et où est-ce qu'il en est, et ensuite on revient vers lui quelques semaines après en lui disant, voilà, nous on pense que parmi tous les dispositifs qu'on a, voilà les meilleurs dispositifs, et on va vous aider pour que ce soit plus simple pour vous et que vous ayez accès à ces systèmes, soit de financement, soit de soutien à l'export, à l'international ou à la propriété intellectuelle.
Alors, ça va faire à peu près un an que le programme a été lancé. Quel est le bilan que vous pouvez faire de cette première promotion ?
Alors, effectivement, ça fait un peu plus d'un an. On a commencé d'abord avec trois opérateurs, pôles de compétitivité, qui étaient Systématique, le Cap Digital à Paris et puis la région de Bordeaux. Et puis maintenant, on en est à une dizaine d'opérateurs en région, et on a maintenant 48 entreprises qui sont Pass French Tech. Donc on voit bien qu'il y a une très forte montée en charge. On s'est d'abord focalisé sur le numérique, parce qu'il faut commencer par un secteur, on y reviendra tout à l'heure, mais les résultats sont très bons. D'abord, le premier résultat, c'est est-ce que les entreprises sont satisfaites de ce Pass. Et là-dessus, il y a une enquête qui a été faite qui montre qu'aujourd'hui, elles voient un vrai valeur ajoutée de participer de ce Pass French Tech, c'est-à-dire que ce pari, entre guillemets, qu'on avait pris de dire simplifions et faisant en sorte que ça soit plus facile pour elles, on est en passe de le gagner. Alors, vous savez, la simplicité et le service, c'est un combat permanent. Mais en tout cas, les premiers résultats sont très encourageants et nous incitent, nous, acteurs du soutien, à continuer dans cette voie, à offrir un meilleur service. Et puis, la deuxième chose, c'est que les résultats, c'est aussi, évidemment, les entreprises. Et là, quand on regarde les 48 entreprises du Pass French Tech, la moyenne de leur croissance de chiffre d'affaires, elle est de 144% sur la dernière année. Donc on voit bien que ces entreprises, elles vont plus vite, elles accélèrent en termes de croissance, elles ont multiplié par 3 le chiffre, plus de par 3 le chiffre de leur croissance de chiffre d'affaires à l'export, et leurs effectifs ont cru de 420%. Elles ont multiplié par 4 leurs effectifs en un an. Donc on voit bien que c'est satisfaisant, à la fois parce que les entreprises sont évidemment satisfaites du soutien qu'on leur apporte, mais aussi que derrière, ces entreprises, elles continuent, elles vont plus loin dans leur croissance, dans leur internationalisation et dans leur recrutement pour adresser encore plus de clients.
Vous parliez du fait que vous êtes intéressé principalement au numérique. Est-ce que la suite, c'est d'autres domaines peut-être ?
Effectivement, donc il y a plein d'autres domaines que le numérique, et donc il n'y a pas de raison qu'effectivement ce Pass il ne s'ouvre pas à d'autres secteurs. Donc on est en train d'y travailler, les critères vont être un peu adaptés parce que l'hypercroissance pour le numérique, c'est effectivement un critère qui, par exemple dans les biotech ou dans d'autres secteurs, prend pas la même forme qui peut être la maîtrise du chiffre d'affaires, mais prend d'autres formes. Donc on est en train de travailler sur les critères, la logique étant quand même de garder une sélectivité forte de ce dispositif, mais on va probablement dès le début 2016 ouvrir à d'autres secteurs. Et puis, on va aussi travailler sur le service avec les différents acteurs. On veut aller encore plus loin. Il faut qu'on soit encore plus efficace collectivement. Et donc, on va faire un bilan et aller encore plus loin dans le niveau de service qu'on veut faire, parce que ces entreprises, elles sont en train de pousser les murs. Il faut que nous aussi, acteurs de soutien, on pousse les murs pour être encore plus efficaces et encore plus à leur service.
Merci beaucoup, Paul-François Fournier, donc directeur exécutif en charge de l'innovation à BPI France.
Merci beaucoup à vous.
Aurore, merci. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique. Vous restez là, direction la rédaction de Zéronet.com, comme chaque samedi. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être là. Avant de se dire au revoir et avant de retrouver le crash test d'Antoine Cyr dans quelques instants, on va parler de à l'envie avec Antoine tout à l'heure pour ce crash test. Avant tout ça, eh bien on va le retrouver, c'est Éric Le Bourlou qui est le, vous le savez, le rédacteur en chef du pôle actu de Zéronet.com. Bonjour Éric.
Bonjour.
Éric Le Bourlou, avec qui nous allons survoler l'actualité high-tech que vous avez pu lire cette semaine sur Zéronet.com, le premier site d'actualité high-tech en France. Et on va commencer par l'iPhone 6, qui depuis hier est disponible dans les magasins et un peu partout dans le monde.
Exactement, il a été lancé donc officiellement hier. Alors Apple a, une fois de plus, essayé de faire un petit peu le buzz autour de son lancement, puisqu'il y a eu une organisation, des files d'attente devant les Apple Store. Les gens pouvaient, effectivement, il y en avait qui avaient campé depuis plusieurs jours pour avoir les premiers, l'iPhone.
Enfin, des files d'attente qui n'étaient pas forcément très remplies,
c'est
non?
C'est exactement ce que j'allais dire. Effectivement, on a constaté quand même qu'il y avait moins de monde que d'habitude dans ces files d'attente. Alors, il y a peut-être plusieurs raisons à cela. On peut dire, effectivement, peut-être que le produit est moins tendu, mais peut-être aussi que la consommation évolue. Peut-être que, maintenant, les gens aussi peuvent l'acheter en ligne, l'avoir le jour même.
Oui, donc, recevoir à la maison.
Voilà, hein. Peut-être que le grand rituel des lancements de produits Apple est peut-être en train un peu de s'essouffler. Bon, il y avait quand même du monde, hein. Il y avait quand même du monde à Opéra. Il y avait quand même du monde un peu partout dans tous les Apple Store, mais c'est vrai qu'on a connu des foules un peu plus grandes devant les Apple Store.
Donc deux nouveaux iPhone, l'iPhone 6 et l'iPhone 6S, et puis l'iPhone 6S Plus, ouais. Donc que vous avez passé au crible, bien évidemment,
oui,
à la rédaction de Zéronet.
Ils sont passés dans les mains du laboratoire de 01net, et effectivement on l'a testé. Alors on a testé effectivement sa principale nouvelle fonction, c'est-à-dire le 3D Touch, hein, pardon, excusez-moi, je vous oublie mes mots, le 3D Touch, qui est donc cette nouvelle possibilité de pression. On peut appuyer plus fort, un petit peu plus fort sur l'écran pour avoir un menu contextuel ou alors de nouvelles actions qui apparaissent dans différentes applications.
Alors en fait, l'écran comprend qu'on appuie dessus un petit peu plus fort.
On a un petit retour haptique.
Il y a du mécanisme à l'intérieur. Hein,
exactement, il y a un petit retour qui permet ensuite de voir qu'on a appuyé un peu plus fort, ça vibre un petit peu, et on a plusieurs fonctions. Alors sur l'écran d'accueil, vous allez pouvoir accéder rapidement à différentes fonctions d'une même application, et puis au sein même d'une application, on peut avoir différentes fonctions comme par exemple prévisualiser un mail avant de l'ouvrir, des choses comme ça. Alors c'est plutôt intéressant, on va voir ce que ça va devenir, parce que pour l'instant ce n'est pas intégré sur toutes les applications d'iOS et donc a fortiori sur les applications tierces de l'App Store.
Sûr,
ça ne marche
pas
pour l'instant.
Développe voilà. En fait des fonctionnalités.
Alors,
avec cette...
ça commence puisqu'il y a Hipstamatic, hein, le célèbre appareil photo vintage pour iPhone, qui a déjà une version compatible avec 3D Touch. Donc les applications tierces commencent à arriver déjà. Donc ça, c'était un petit peu le point sympa de l'iPhone 6S, hein, c'est donc vraiment une nouveauté d'usage. En revanche, on a aussi testé la photo, et la photo, c'est un petit peu moins bon, en fait, un petit peu moins bon. On va dire que c'est un très bon appareil photo, mais face à la concurrence sous Android qui s'est beaucoup améliorée en la matière ces derniers mois, c'est vrai que l'iPhone est parfois à la traîne. Hein, ça nous a surpris, mais c'est vrai.
Une première, hein, parce que c'est vrai qu'Apple a toujours eu, en termes de qualité d'appareil photo sur ces iPhones, une petite longueur d'avance.
Exactement.
Et on s'est rendu compte que d'année en année, cette longueur d'avance s'est réduite jusqu'à cette année où finalement, il y a des concurrents qui font mieux.
Tout à fait. Par exemple, le Galaxy S6, par exemple, le LG G4, par exemple, le OnePlus 2, ces appareils ont parfois un autofocus, parfois un piqué plus net des photos que l'iPhone 6. Ça, on le montre assez bien dans notre long article qu'on a fait sur Zéronet.
Voilà, malgré tout, ça reste un très bon.
Ça reste un très bon photophone. Voilà, faut pas non plus dire qu'il fait des photos affreuses. Il fait des très belles photos, ouais.
Voilà, parce qu'en plus, il est passé de 8 à 12 mégapixels, donc on gagne quand même en résolution. Ça c'est quelques-unes des fonctionnalités. Si vous voulez en savoir plus sur cet iPhone, qui vous tente peut-être, si vous voulez avoir tous les détails de ces tests, zeronet.com et même zeronet TV où
exactement,
plusieurs vidéos vous attendent,
ouais,
bien
fait.
Évidemment. On va rester dans le milieu Apple, Eric, avec cette news assez étonnante. Si vous arrivez, alors vous qui êtes peut-être informaticien, à pirater l'iPhone et iOS 9, eh bien il y a une boîte qui vous file $1 million.
Voilà. Eh oui, tout simplement.
Un chèque d'$1 million.
Un chèque d'$1 million, ouais. C'est une belle somme, c'est joli.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Alors pour
mais
cela,
il faut pirater l'iPhone.
C'est pas facile à faire puisqu'il faut réussir à arriver à pirater l'iPhone à distance, c'est-à-dire par le biais d'une simple page web. C'est-à-dire que vous devez arriver à produire un exploit, si vous voulez, qui va permettre à un pirate d'accéder à un iPhone à distance via une page internet. Ce qui est quand même un sacré exploit, parce qu'en général, c'est plus facile de pirater un iPhone quand on a un accès physique, évidemment.
Et là, on parle même pas de jailbreak. Hein,
voilà, c'est effectivement, c'est en partie du jailbreak, puisqu'il faut effectivement pouvoir accéder aux données qui sont dans l'iPhone. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi cette entreprise qui s'appelle Zerodium fait ça. Pourquoi elle réclame $1 million.
Dont le patron est français, je crois.
Le patron est français. Il est patron d'une boîte qui s'appelle Vupen et qui est très connue dans les milieux de la sécurité informatique. Et cette entreprise, en fait, est assez étonnante puisqu'elle propose des millions de dollars pour des gens qui vont trouver des failles. Mais ces gens-là, en fait, doivent fournir leurs failles à cette entreprise, qui va ensuite, elle, la commercialiser auprès de certains clients un peu étonnants, puisque ce sont qui ? Ce sont des agences gouvernementales, ce sont des gouvernements qui ont envie de savoir ce qui se passe dans vos iPhones. En fait, cette entreprise vend.
Comme par exemple la NSA,
typiquement, la NSA est un client. On sait que la NSA a été un client de Vupen, l'autre entreprise de ce patron français. Mm-hmm. C'est un business qui est effectivement très surprenant. En fait, c'est $1 million. C'est attirer des hackers hyper performants pour pouvoir ensuite revendre ces failles pour pouvoir espionner finalement des iPhones. Donc c'est pas du tout un hacking qui vous veut du bien pour le coup. C'est plutôt pour pouvoir espionner au maximum les gens qui ont des iPhones. Et pour l'instant, c'est pas très facile.
Est-ce que c'est possible finalement de trouver une faille comme ça ?
On peut toujours. Je pense que c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de failles. Il y a un marché de la faille comme ça qui reste caché. Hein. La NSA, on sait, exploite des failles qui ne sont pas connues.
Oui, bien sûr.
Parce qu'évidemment, le hacker qui donne $1 million, il ne va pas donner cette faille à Apple. Il doit donner cette faille à cette entreprise
qui elle ne la communiquera pas.
Ne la communiquera pas. Et ça provoque d'ailleurs d'immenses débats dans les milieux de la sécurité, où on a plutôt tendance à reporter les failles aux fabricants de la machine pour qu'ils puissent les corriger.
Donc il y a un côté malsain.
Il y a un côté un peu bizarre en tout cas, oui. Ouais.
On va parler maintenant d'un autre concept assez étonnant. C'est Oculus, que vous connaissez peut-être. Hein, c'est ce masque de réalité virtuelle à 360 degrés. Hein, vous insérez un masque sur votre tête et vous êtes dans un monde un peu parallèle, en tout cas étonnant, virtuel. Il y a eu une conférence de presse de la société Oculus il y a quelques jours.
Tout à fait, Oculus, ça évolue. On sait que l'Oculus Rift, ce casque, va sortir l'année prochaine. On rappelle qu'Oculus est au passage une entreprise qui a été rachetée par Facebook l'année dernière contre $2 milliards. Et effectivement, Oculus a présenté avec Samsung une nouvelle version d'un casque qu'ils avaient déjà lancé, qui s'appelle le Gear VR, et qui va être disponible dans les mois qui viennent pour $99, donc pas cher. Et on va pouvoir avec
Alors que celui qui est disponible aujourd'hui coûte plus cher.
Beaucoup plus cher, ouais. Et on va pouvoir donc, si on a un téléphone Samsung, glisser son téléphone dedans et puis profiter de contenu en réalité virtuelle. Ce qui est intéressant à cette conférence qui a été intéressant aussi, c'est que Oculus a montré de nouveaux partenaires. Donc Netflix par exemple, donc vous allez pouvoir demain regarder des films en réalité virtuelle dans votre casque. Avec Netflix. Alors ce sera pas un vrai film à 360 degrés.
Hein.
Vous êtes en gros dans une salle de cinéma, puis vous allez pouvoir regarder autour de vous, puis au milieu il y aura l'écran du film. Bon, c'est pas génial, mais en fait ce que veut faire Oculus par là, c'est montrer que la réalité virtuelle, ce n'est pas que du jeu vidéo.
Oui,
il y aura
sûr.
Minecraft aussi qui sera proposé en réalité virtuelle, mais ça peut être aussi du cinéma, ça peut être des contenus pour tous, pas forcément pour les gamers.
Oui, parce qu'on peut très bien imaginer que ça devienne un outil pour se s'immerger par exemple dans une salle de cinéma et avoir l'impression
Exactement.
De regarder un film dans de bonnes conditions.
Tout à fait.
Dans d'autres conditions que, par exemple, sur une tablette posée, par exemple, je sais pas moi, sur le siège d'un avion ou une chose
par
comme
exemple,
ça. Là,
ouais.
On est vraiment
immergé
dans le film.
On peut imaginer aussi pour le tourisme. Il y a d'autres usages, effectivement, qui sont en train d'être imaginés aujourd'hui.
Voilà. Oculus Rift, donc. On va enchaîner maintenant avec un autre sujet qui est lié à Apple, mais qui est beaucoup plus global et qui fait frémir en fait tous les éditeurs de sites commerciaux, ouais. C'est les ad bloqueurs. Vous savez, c'est en fait ces programmes qui vous font disparaître toute la publicité que vous pouvez avoir sur des sites. Ouais. Eh bien, Apple l'avait annoncé et ça arrive maintenant. Il y a des ad bloqueurs sur l'iPhone, oui. Pour ne plus avoir de publicité.
Exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus surprenant dans tout ça, c'est que ces ad bloqueurs sont très populaires. Le logiciel le plus populaire aujourd'hui sur l'iPhone est un logiciel payant, hein, payant. Et parmi les logiciels payants, est un bloqueur de publicité. Et donc, c'est assez incroyable de voir que ça fait un carton total. Il y a même eu un développeur, hein, qui est le créateur de Tumblr, accessoirement, qui a créé d'abord un petit adblocker qui s'appelait Peace et qui a voulu, en fait, qui s'est rendu compte de, vu son succès, il s'est dit ça va trop loin. Je suis en train de faire quelque chose de mal et qui a voulu tout à coup le retirer. Il l'a retiré. Apple a d'ailleurs remboursé tous les clients qu'il avait achetés. Mais en tout cas,
parce que la conséquence de tout ça, c'est que bien sûr c'est séduisant de ne plus avoir de publicité, mais d'un autre côté, on est en train de mettre à terre un modèle économique carrément. C'est ça le souci.
C'est un peu étrange, d'autant qu'Apple lui propose une application de nouvelles, hein, de news aujourd'hui sur son iPhone avec des publicités qui sont par contre elles imbloquables et impossibles à passer. Et c'est marrant parce qu'il a proposé ça avec iOS 9 en même temps qu'il autorisait les bloqueurs de publicité. Donc effectivement maintenant en fait c'est un peu, on a l'impression qu'Apple veut aussi forcer d'une certaine manière les gens à passer par ses propres services, parce qu'évidemment si vous passez par les services d'Apple vous ne pouvez pas être bloqué, tandis qu'avec Safari, si vous avez un site web normal, vos pubs ne passeront plus.
Alors, ce qu'il y a d'amusant derrière tout ça, c'est que, évidemment, ça fait frémir Google, hein, le fait qu'il n'y ait plus de publicité. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que l'un des adblockers les plus populaires a passé un accord avec Google pour que justement ces pubs de Google ne soient pas bloquées.
Exactement. En fait, AdBlock Plus, qui est le plus populaire des bloqueurs de publicité, ne bloque pas les pubs de Google parce qu'il ne les considère pas comme intrusives, mais aussi parce que Google lui donne beaucoup d'argent. Et c'est vrai que c'est des petites pubs Google, on les voit pas beaucoup.
Oui,
c'est pas des grosses
flashlines.
Voilà. Par contre, ce sont des publicités qui vous traquent en permanence. Mais celles-là ne sont pas bloquées. Et effectivement, la plupart de ces adblockers qui sont sur iPhone ont passé désormais des accords avec cette entreprise AdBlock Plus qui commercialise en fait, qui propose en fait ces listes de blocage avec certaines entreprises qui continuent à vous fournir de la publicité. Donc c'est un business qui est quand même un petit peu particulier où on paye pour un bloqueur de pub qui nous renvoie quand même de la pub des plus grandes entreprises de pub, c'est-à-dire Google par exemple,
qui le paye accessoirement.
Et qui le paye, voilà.
C'est un peu
on n'a pas fini d'entendre parler de ces bloqueurs de pub qui effectivement mènent la vie dure à tous les éditeurs de sites aujourd'hui.
Évidemment. Alors qu'on sait que évidemment la publicité sur internet c'est quelque chose assez compliqué.
Ouais.
Merci beaucoup Éric Le Bourlou,
merci.
Rédacteur en chef du pôle actu de 01net.com. L'atelier numérique sur BFM Business revient dans un instant, vous restez là. Et on va terminer avec le crash test d'Antoine Cyr. À tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, le crash test d'Antoine pour terminer cet atelier. Mais auparavant, c'est notre alphabet du numérique. Comme chaque samedi, Lila Megraoua décrypte tous ces mots bizarres. Et aujourd'hui, on s'intéresse, Lila, à ces mots techno qui sont complètement intraduisibles.
Mais oui, François, une fois n'est pas coutume, je vais me faire le héros de la langue anglaise. Il faut dire que dans la bataille de la langue, nos amis anglo-saxons nous laminent totalement. Alors, du moins dans le secteur du web et du numérique. Ce qui est, reconnaissons-le, bel et bien fâcheux. Il est loin le temps où le français était langue diplomatique par excellence, donc langue de pouvoir. Aujourd'hui, on peut plus ou moins dire, on peut reconnaître que le pouvoir est au numérique et que ce n'est pas demain la veille que nous dirons balado-diffusion à la place de podcast. Moi, je mets au défi quiconque travaillant dans le web ou dans le numérique de passer une journée sans prononcer un seul mot d'anglais, sans difficulté et en se faisant comprendre de tous. Car bon, let's face it, hein, soyons réalistes, certains mots du web sont absolument intraduisibles en un seul mot. L'un des exemples les plus parlants, le one pager. Exemple, on aurait besoin d'un one pager que nos commerciaux pourraient montrer aux clients. Si je traduis, on aurait besoin d'un document d'une page ou d'un site en une page et surtout convaincant pour que nos commerciaux puissent le montrer et convaincre nos clients. Amusez-vous à trouver une traduction en un mot, ça n'existe pas. Autre loup intraduisible ou difficilement, insights. Alors c'est un mot, on peut dire chéri du marketing. Le terme insight ou plus précisément insight consommateur ou insight client a un sens qui est quand même un peu compliqué. L'insight prétend qualifier une vérité consommateur, là je cite Wikipédia, qui peut être porteuse d'un potentiel d'activité pour l'entreprise qui choisira de l'exploiter et d'y répondre par un produit. Je continue. Ainsi, l'insight s'exprime selon une phrase du type « J'aimerais pouvoir manger 5 fruits et légumes par jour parce que je sais que c'est important pour la santé, mais je n'ai pas toujours le temps de cuisiner. » On est loin, même très très loin, de la proposition de word référence, à savoir « insight égale aperçu, intuition, idée ». Autre petit coquin absolument intraduisible en français, c'est le game changer, un trouble fête. Alors je veux pas dire, mais vous imaginez dire oh Uber, ce trouble fête pour les taxis. Encore que, vous l'avez compris, il va falloir ASAP relever ce challenge linguistique et établir des process à partir de data. Allez. Promis, la semaine prochaine, j'essaye de vous parler français, François.
Lila, merci. Et place donc au crash test pour conclure cet atelier numérique sur BFM Business avec Antoine. Et Antoine, le point de départ de ce crash test cette semaine, c'est à l'envi.
Alors, à l'envi, ça veut dire quoi pour vous, mon cher François ?
Je dirais, il y a une notion d'abondance dans à l'envi.
Exactement, exactement. À l'envi, c'est en fait un synonyme de à qui mieux.
Oui.
C'est de façon illimitée. Quoi. Exactement.
Open bar.
Voilà. Et comment écrivez-vous à l'envi ?
Sans un E à la fin.
Exactement. Oui. Vous êtes formidable.
Mais vous me le dites chaque semaine. Maintenant, je vais commencer à le croire.
Voilà. Donc, à l'envi. Alors, pourquoi j'ai fait ce crash test sur à l'envi ? Ben parce que je suis tombé par hasard sur la publicité d'une crêperie qui s'appelle à l'envi, qui se trouve à Charroux. Voilà,
vous avez
au fin fond de nos régions. Donc cette très belle crêperie se vante d'être de père en fils depuis 2012. Alors quand même,
d'accord.
Quand même, ils s'en débarrassent assez rapidement.
Enfin, cela dit, ils ont de l'humour aussi.
Les papas, ils ont de l'humour. Voilà.
Ça c'est pas mal.
C'est assez drôle. Donc cette crêperie à l'envi qui se trouve dans une grange du XIIIe siècle, entièrement réaménagée. À Charroux, je pense que Charroux, ça doit être dans l'Allier de mémoire. Mais le beurre et les cidres viennent de Bretagne. Mais enfin, il y a quand même un cidre auvergnat qui est proposé pour être un peu plus couleur locale. Alors évidemment, cette crêperie s'appelle à l'envi, mais ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'expression à l'envi. Je le dis quand même parce que leur site internet est pas mal, et donc on parle de web,
de tout ce qu'on trouve sur le web.
Tout ce qu'on trouve sur le web. Alors à l'envi, eh bien, il y a le site d'un projet d'un projet qui s'appelle le projet Voltaire, qui explique très bien ce qu'est à l'envi et qui nous donne l'avis d'un expert, non pas l'envi, mais l'avis d'un expert qui s'appelle Bruno Devel et qui est champion du monde d'orthographe.
Champion du monde d'orthographe.
Voilà. Il est aussi professeur agrégé de lettres modernes. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de ressources linguistiques très intéressantes sur le web. Et c'est le cas de cette ressource, le projet Voltaire. Alors, il nous dit, l'étymologie souligne, à l'envi, ajoute-t-il avec humour, ce qui sépare ces deux homonymes trop souvent confondus. Alors que notre populaire envie, donc l'envie avec un E,
oui, notre envie,
descend du verbe latin invidere, oui, qui veut dire regarder d'un œil malveillant, d'où l'idée de jalousie, le littéraire envie, donc cette fois-ci envie sans E, est né, lui, d'invitare, Donc ce n'est pas la même étymologie,
ah oui,
qui veut dire provoquer au jeu. C'est cette idée de défi qui est à l'origine de l'émulation, de la rivalité constructive, dit toujours le champion du monde d'orthographe, qui connote cette locution. Et donc, vous avez donc cette explication dans l'étymologie différente, envie qui vient de invidere, regarder d'un œil malveillant, et envie qui veut dire invitare, et en fait à l'envie c'est un synonyme de jusqu'au défi, c'est jusqu'à l'extrême en fait. Et donc ça vient de invitare. Par exemple, il nous donne sur ce site du projet Voltaire un certain nombre de d'exemples dans lesquels des fautes au mot envie ont été repérées. Par exemple, pour nous séduire, les publicitaires recourent à l'envie aux situations cocasses. Est-ce que vous mettez un E là ou pas?
Les publicitaires recourent à l'envie aux situations cocasses. Non.
Non, vous ne mettez pas de E, tout à fait. En revanche,
l'impression que vous êtes mon prof là.
Quand on dit passer, ben non, c'est Monsieur Devel, c'est le champion du monde d'orthographe.
Ah,
excusez-moi,
oui. Il faut être à la hauteur. Hein.
Voilà. Quand on dit passer du désir à l'envie, tel est le défi lancé par cet homme politique.
Bon là, il faut un E.
Et là, il faut un E. Voilà. Ouais, en fait, c'est assez simple. Hein.
Oui.
C'est assez simple.
Il faut comprendre le sens.
Mais il faut quand même comprendre le sens. Et alors, ce qui est très sympathique, c'est que j'ai aussi trouvé pas mal d'éléments sur à l'envi, sur un site qui est celui de la banque linguistique de la banque de dépannage linguistique, c'est quand même formidable, de l'Office québécois de la langue française.
Oh là là.
Et c'est quand même admirable de se dire qu'on peut se faire linguistiquement dépanner. Par une banque québécoise, mais qui n'est pas une banque ordinaire, puisque c'est la banque de dépannage linguistique.
Parfois, on rencontre des gens qui auraient besoin de dépannage linguistique, quand même, hein, Antoine. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Voilà, absolument. Donc là aussi, vous avez plein de d'exemples. Et on vous dit une petite chose que ne nous dit pas le champion du monde d'orthographe, qui nous explique pourquoi il y a cette différence. C'est tout simplement parce que ce fameux nom « envie » sans « e » final vient de l'ancien français. Et donc ce sont nos ancêtres, les anciens français et non pas les Gaulois, qui l'utilisaient pour employer encore une fois le mot « défi », « provocation ». Donc si je disais « je vous lance un envie », car je pense que c'est masculin,
un envie,
ça voulait dire « je vous lance un défi ».
D'accord.
Je vous lance un regard plein d'envie. Ça veut pas dire
non, que il y a pas de désir là-dedans.
Y a aucune forme de désir.
C'est du défi.
C'est un langage de. C'est un regard
de défi,
de provocation,
ah oui,
de défi. Voilà. On nous donne encore évidemment plein d'exemples d'emploi du mot à l'envi. Les chefs ont répété à l'envi leurs promesses lors de la soirée du débat. Ces gestionnaires réunis finissent toujours par s'interrompre et par s'apostropher à l'envi. Un exemple plus culinaire qui est cette recette peut-être modifié à l'envi. Voilà.
Ah oui,
donc vous avez énormément de d'exemples qui sont donnés sur cette banque de linguistique du Québec, qui est très amusante parce que il y a toute une base de données spécialisée dans les homophones lexicaux. Par exemple, je peux vous donner un exemple d'homophone lexical. Donc il y a envie et envie.
Oui.
Donc voilà, c'est le même son et ça veut dire deux choses différentes.
Oui.
Généralement, il y a une étymologie différente. Et par exemple, vous avez le mot abîme avec un i et le mot abîme avec un y. Alors, par exemple, l'abîme, lorsque vous tombez dans un gouffre, ce qui vous arrive assez souvent,
c'est vrai.
Vous tombez.
Mais parce que vous m'entraînez dans ce gouffre.
Vous tombez dans une abîme.
Avec un y.
Avec un i.
Ouh là là, attention.
Attention.
Ah, je confonds avec abyssal.
Exactement.
C'est ça qui me fait faire l'erreur.
Et en revanche, dans un abîme d'ailleurs, je pense que c'est un abîme.
C'est un abîme.
Voilà. Donc, en tout cas, d'où tomber dans un, c'est dans un
oui,
abîme.
Déjà, c'est pas bon.
Voilà. Bon. Vous tombez dans l'abîme.
Oui.
Comme ça, il n'y a pas de...
voilà, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Là, il faudrait que je retourne sur la banque lexicale, si vous voulez. Et puis, vous avez une mise en abîme. Vous savez, la mise en abîme, c'est quand plusieurs miroirs se réfléchissent les uns dans les autres.
Vers l'infini.
Et donc là, abîme s'écrit Y.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
On l'utilise moins, celui-là.
Moins, mais la mise en abîme, ça se dit quand même.
C'est vrai.
Ça se dit. Et donc, sur cette fameuse banque de dépannage linguistique du Québec, vous avez plein de petites astuces.
C'est sympa,
ça. C'est très sympa.
Ouais. Merci à nos amis québécois qui sont là pour promouvoir notre belle langue française. Antoine, merci pour ce crash test. On salue d'ailleurs tous nos amis qui nous écoutent du côté du Québec. On sait qu'ils sont très nombreux chaque semaine à écouter l'atelier numérique. On pense à vous, on sait que vous êtes fidèles à cette émission. Cet atelier numérique est terminé. On sera là le week-end prochain, 16h, 18h. D'ici là, portez-vous bien et à samedi.